Évangile et liberté.
L'émission mensuelle du protestantisme libéral. Évangile et liberté est le mensuel du protestantisme libéral. Évangile et liberté, ou encore penser, critiquer et croire en toute liberté. Deux numéros d'Évangile et liberté seront envoyés gratuitement à tous ceux qui en feront la demande au numéro de téléphone suivant 09 53 43 45 71. Alors l'invité de notre émission d'aujourd'hui est participante au groupe d'Évangile et liberté à Montpellier. Et c'est aussi une passionnée d'icônes et d'art liturgique. J'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Joëlle Nicolas Randéger. Bonjour Joëlle.
Bonjour Guylaine.
Alors, je vous appelle Nicolas Randéger tout ça d'un coup ou...
Non, Joëlle, ça, c'est plus simple.
Allez, on s'arrête à Joëlle. Alors Joëlle, vous êtes montpelliéraine, protestante, et vous avez un site sur lequel on prend connaissance de votre expérience en médecine pédiatrique, de votre engagement auprès des enfants malades et notamment sur le continent africain. Et vous êtes l'invité de cette émission d'Évangile et Liberté. Alors merci à vous d'être dans nos studios d'FM+. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur votre passion de l'art liturgique orthodoxe et des icônes. Et ça peut sembler comme ça, a priori, contradictoire, un peu en opposition totale, de parler d'une passion pour les icônes et d'un engagement protestant libéral. Vous allez nous dire ça, Joël, comment ça se passe?
C'est un engagement protestant, je rajouterai pas forcément le terme libéral, d'accord, parce que ça c'est connoté, mais de la liberté, oui, je voudrais en parler.
Ouais.
Alors, c'est un chemin qui a été très long pour moi, puisque effectivement, je suis issue d'une famille protestante réformée, qui respectait, comme tout bon protestant, l'interdit des images, tel qu'on le trouve dans le deuxième commandement dans l'Exode. Et c'était une démarche totalement nouvelle que j'ai entreprise après ma retraite, c'est-à-dire en 2003. Ceci dit, je crois que cet amour des images et des images liturgiques date de... il y a très très longtemps, puisque je le dois cet amour à ma grand-mère, qui était elle-même institutrice d'école maternelle, qui était plutôt agnostique et donc qui avait pas cette
impératif.
Cet impératif que les autres membres de ma famille respectaient à tout prix. Et elle m'a appris à dessiner, elle m'a appris à peindre, elle m'a appris le goût de la couleur, du dessin, etc. Et surtout, elle m'a offert un évangile illustré. Qui était justement illustré selon un mode qui ressemblait aux icônes. C'était plus stylisé, mais ça m'a donné très jeune, donc
ce goût-là
d'image que je définirai plus tard comme transfigurée. Et donc je lui dois vraiment cet ancrage dans l'art plastique et pas seulement dans la musique, dans la parole, telles qu'elles étaient pratiquées dans les cultes protestants.
Voilà. Donc finalement, mais il a fallu quand même que vous fassiez votre carrière professionnelle, vos activités lucratives.
Et oui, parce que à l'âge de 10 ans, je pensais devenir professeur de dessin, tellement j'aimais ça.
Ouais.
Mais les circonstances de la vie m'ont conduite à faire autrement et à marcher sur les traces du docteur Schweitzer, dont j'avais rencontré une adepte qui m'avait convaincue de suivre ses traces.
Et vous donc... étiez déjà à Montpellier dans cette
époque ? Non, j'étais pas du tout à Montpellier. J'habitais Tunis. J'étais en Tunisie. Et j'ai passé toute mon enfance là-bas. Et bon, alors ça, c'est une autre histoire.
Ouais, on y reviendra peut-être une autre fois.
Et du coup, j'avais ce rêve de partir soigner des personnes en Afrique, démunies de tout. Et... ce rêve s'est effectivement réalisé. J'ai fait ma médecine, je me suis mariée et le premier poste que mon mari a obtenu après son passage aux éclaireurs unionistes, comme responsable des éclaireurs unionistes, eh bien, ça a été un poste en Algérie. Bien sûr, ça me rappelait mon enfance au Maghreb. Et c'est ainsi que nous sommes partis et que nous avons vécu pendant une vingtaine d'années là-bas. J'ai exercé mon métier à la fois en Algérie, puis après en Côte d'Ivoire, au Congo, etc. Et puis ensuite avec des associations humanitaires. Donc l'Afrique, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
Très éloigné, ceci dit, mais ce métier orthodoxe.
Très éloigné de tout ça, mais en fait, il y a un lien. C'est que j'ai été confrontée avec des événements très, très, très durs, qui étaient la mort des enfants. En Afrique, malheureusement, les enfants sont très peu protégés. Et mon métier était devenu un véritable sacerdoce. Et à chaque fois que des enfants que j'avais soignés mouraient dans mes bras, c'était un deuil à faire. C'était voilà, je vivais ensuite. Je me suis beaucoup occupée ici à Montpellier, au CHU de Montpellier, d'enfants qui étaient atteints de maladies très graves comme le cancer et le SIDA. Et tout ça était
prenant,
très très prenant, et sur le plan spirituel me posait des questions vraiment de fond. Où est Dieu quand on voit mourir un enfant, voilà. Et c'était cette recherche spirituelle était parallèle, bien entendu, avec le métier que j'exerçais. Et j'avais besoin de prière, j'avais besoin de calme, j'avais besoin de sérénité, de retrait pour me nourrir et pour nourrir mon âme, on pourrait dire. Et c'est vrai que le protestantisme, qui est assez cérébral, qui a une liberté intellectuelle que j'apprécie beaucoup, ne m'apportait pas cette dimension de contemplation et de
oui, il y avait donc un manque dans cette expression de la foi.
Il y avait un manque, voilà. Et donc le chemin était assez long. Je me souviens qu'en 81, j'ai fait un voyage en Bulgarie avec ma mère, qui m'avait entraînée dans un voyage Cléo. Et les voyages Cléo, c'était des voyages œcuméniques. Et il y avait donc un pasteur. Le pasteur était Daniel Adjé. Et le prêtre était le père Beaupère. Et en Bulgarie, on a visité énormément de monastères, avec monastères orthodoxes. C'était encore sous le régime soviétique, hein. Donc ils étaient plus ou moins clandestins, ou en tout cas devaient faire absolument allégeance au gouvernement, mais ils avaient pu conserver leur richesse artistique. Et là, j'ai été absolument émerveillée devant les fresques, et en particulier une dont je me souviens très bien, je me souviens plus dans le monastère dans lequel elle était, qui était une fresque sur la roue de la vie, qui m'avait vraiment beaucoup beaucoup touchée.
Mais ça répondait finalement à votre à ce que vous appeliez tout à l'heure un manque, à une sorte d'appel.
Oui, voilà. C'était le premier. Je crois que ça a été le premier appel. Et là, j'ai collectionné un peu toutes ces images, des fresques. Bon, j'ai aussi fait un voyage en Sicile avec les mosaïques extraordinaires de la cathédrale de Montréal. Et voilà. Et alors, le vrai déclencheur, là où j'ai dit que j'allais me mettre à faire des icônes, c'est en 2002, une cérémonie du Vendredi Saint au centre œcuménique de Jacou. Donc je suis rattachée, moi, au secteur des Garrigues, donc
dont le temple est
à Jacou. Et chaque année, il y avait plusieurs cérémonies œcuméniques dans ce centre qui réunit donc les protestants et les catholiques, dont le Vendredi Saint. Et cette année-là, on avait demandé au pasteur Daniel Bourguet, qui est
veilleur,
théologien protestant, spécialiste de l'Ancien Testament, et il était à ce moment-là prieur de la fraternité des veilleurs. On avait demandé d'animer cette veillée, et il était venu avec une méditation faite par lui-même sur l'icône de la crucifixion. Et de voir, d'entendre un pasteur protestant théologien spécialiste de l'Ancien Testament, donc il connaissait très bien le deuxième commandement, méditer et nous conduire dans la prière et la contemplation à partir de cette image magnifique qu'est l'icône ancienne de la crucifixion, qui est, je crois, attribuée à Théophane le Grec. Je me suis dit, voilà, puisque lui le fait,
pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne suivrai pas cette passion qui est la mienne?
Voilà.
Même pas passion d'ailleurs, appel.
Et j'arrivais donc à la retraite, j'ai pris ma retraite en fin 2003, et j'ai tout de suite cherché un atelier où commencer à apprendre, parce que je comprenais bien que c'était un nouvel apprentissage, il fallait que je me remette à obéir à des maîtres, etc. Et je suis d'abord allée dans un atelier, alors là, tout à fait orthodoxe, qui est à Saint-Jean-en-Royans, et qui était dirigé par un certain prêtre qui s'appelait Nicolas Garrigou. Alors, il se trouve que je m'appelle Joël Nicolas, par mon mari, et que j'habite 2 rue du Garrigou. Alors, quand j'ai vu que cet atelier était dirigé par un homme qui réunissait quelques éléments de mon identité, je me suis dit non, là, il y a cet assis.
C'était pour vous.
Bon. Alors, j'y suis allée, mais en fait, je n'y suis pas restée, parce que la méthode d'apprentissage ne me convenait pas. D'abord, c'était loin, il fallait que j'aille faire des week-ends complets plusieurs fois dans l'année là-bas, et j'ai passé un week-end à faire des traits, des pleins et des déliés au crayon, et à écouter l'enseignement théorique de ce maître, et je me suis dit...
C'est pas ce que vous attendiez.
C'est pas ce que j'attendais, mais surtout, j'avais déjà 62 ans, et je voyais qu'on ne touchait une planche qu'au bout de 4 ou 5 ans, et qu'on était vraiment iconographe confirmé qu'au bout de 10, 15 ans et encore. Je me suis dit, c'est pas ça. Je ne peux pas faire ça. Et alors, il s'est produit un autre miracle, un autre signe. À l'époque, j'étais responsable de la commission d'aumônerie hospitalière, et nous avions besoin de recruter un aumônier ou une aumônier. Je ne sais pas si on peut mettre ça au présent, au féminin, pour les cliniques. Et on m'avait signalé qu'une jeune femme qui s'appelait Corinna, qui est toujours d'ailleurs aumônier maintenant, habitait à l'époque dans un monastère qui se trouvait à Saint-Mathieu de Tréviers. Donc je suis allée là-bas la rencontrer pour avoir un entretien avec elle, parce qu'elle était candidate à ce poste-là. Et elle m'accueille à l'extérieur, et elle me dit on peut pas trop aller à l'intérieur aujourd'hui parce qu'il y a un stage d'icône. Je reste muette et je me dis, un stage d'icône là, si près de chez moi, parce que c'est à quelques kilomètres de chez moi, ce monastère. Et voilà, donc je suis allée voir, évidemment, après l'entretien, curieuse, je suis allée voir ce qui se passait là, et là j'ai trouvé mon maître, c'est-à-dire une amie qui m'a fait progresser en quelques mois. On s'est senti vraiment complètement en accord. Alors, elle s'appelle Ania Pinkovitch. Elle est d'origine ukrainienne. Elle n'est pas orthodoxe. Elle est catholique de rite byzantin. Puisque en Ukraine, un certain nombre de chrétiens se sont détachés du patriarcat orthodoxe de Moscou, qui était trop pesant, et sont restés en fait liés à Rome. Mmh. Mais la liturgie, la manière de prier, la manière de chanter ressemble beaucoup à celle des orthodoxes. Donc elle était un petit peu plus ouverte à une autre forme d'apprentissage très rigoureux, très rigoriste, que je dirais, que pratique la majorité des maîtres orthodoxes, tout en étant tout à fait fidèle à la tradition qu'elle nous a enseignée, qu'elle nous a permis de découvrir aussi. Voilà, et elle me plaisait beaucoup parce que d'abord, elle nous a fait choisir nous-mêmes l'icône que nous voulions représenter en premier. Dans la plupart des ateliers, on commence par le visage du Christ, ensuite on va faire une vierge à l'enfant, et ensuite, alors là, quand on est vraiment bien formé, on arrive à faire la transfiguration. Voilà, ça c'est la démarche orthodoxe. Mmh. Ici, on avait une très grande liberté, donc je retrouvais d'une part, effectivement, l'obéissance, qui est nécessaire à l'apprentissage et à l'imprégnation dans une tradition qu'il fallait que je découvre de l'intérieur, mais en même temps la liberté de choisir les thèmes qui nous qui répondaient à la spiritualité que nous voulions développer, au dialogue que nous voulions avoir avec certains personnages de l'évangile. Et donc la première icône que j'ai choisie et qui m'a conduite dans un chemin, alors là, extraordinaire, c'est la Samaritaine, l'icône de la Samaritaine. Elle n'est pas très connue, elle est plutôt sous forme de fresque ou de tableaux décorant des églises, plutôt qu'une icône, voilà. Mais les couleurs, le thème, le visage du Christ, qui était très doux sur ce modèle-là, m'a donné l'envie vraiment de la reproduire. Et voilà, ça a été la découverte.
Eh bien, après ce premier parcours très rapidement brossé, une courte pause musicale en orthodoxie, en musique orthodoxe. Et nous vous retrouvons tout de suite après, Joël, Nicolas. Dans cette émission du protestantisme libéral, évangile et liberté, nous avons le plaisir d'accueillir Joël Nicolas, passionnée d'art liturgique et participante au groupe Évangile et Liberté de Montpellier. Pour ce numéro du mois de mai, le dossier d'Évangile et Liberté est écrit par Pierre-Olivier Léchaud, docteur en théologie et professeur d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie, mais aussi par Olivier Abel, professeur de philosophie éthique, aussi à l'Institut protestant de théologie, et Maxime Michelet, qui est lui doctorant en histoire contemporaine à la Sorbonne. Alors, non seulement le dossier d'Évangile et Liberté du mois de mai est consacré à l'Europe, mais le fil conducteur de l'ensemble de ce numéro du mois de mai reste l'Europe. Avec des articles de Laurent Gagnebin, de François Claveroli, qui est donc le président de la Fédération protestante de France, mais aussi un commentaire sur l'Ode à la joie, l'hymne européen, un auteur est présenté comme Walter Benjamin. Bref, un numéro de bonne teneur pour lequel les retours des lecteurs et lectrices sont déjà élogieux. Alors, si à votre tour, vous souhaitez prendre connaissance de ce numéro, il vous suffit d'appeler le 09 53 43 45 71 et il vous sera envoyé gratuitement. Alors, je reviens vers mon invité, Joël Nicolas, qui partage à la fois son intérêt, son engagement pour le protestantisme, mais aussi un engagement et un appel vers la spiritualité orthodoxe à travers la réalisation d'icônes. Car c'est de cela dont il s'agit, Joël, c'est que vous avez cherché à reproduire vous-même des icônes.
Reproduire...
On ne dit peut-être pas comme ça.
On dit écrire une icône. Parce que l'icône se base sur les Écritures. Elle témoigne de l'Évangile et donc elle est fidèle à l'Écriture. Hein. Ça, c'est la base même de l'icône. Et comme les Écritures, elle conduit à l'interprétation, à la méditation, à la prière. Mmh. C'est donc un outil, non pas supplémentaire, mais parallèle, complémentaire, on pourrait dire, de la lecture de la Bible. Évangiles. En tout cas, c'est comme ça que moi, en tant que protestante, je la comprends. Et c'est comme ça que je n'ai plus ce sentiment de transgression par rapport à un interdit qui avait été intériorisé depuis ma jeunesse. Mais les icônes, effectivement, nous conduisent à la fois dans l'obéissance à des modèles anciens. Ceci dit, nous pouvons nous inspirer soit d'icônes, soit de fresques, soit de mosaïques qui composent ce qu'on appelle l'art byzantin ou l'art russe. Je ne parlerai pas, pour ma part, de spiritualité orthodoxe, mais de spiritualité des premiers chrétiens. Parce que les premières icônes, qui sont très anciennes, on en a retrouvé donc, et puis les fresques aussi sont aussi très anciennes, à partir du 4e siècle par exemple, à Ravenne on a des mosaïques et des fresques absolument extraordinaires. Les premières icônes étaient en fait des espèces de portraits funéraires du Christ et des apôtres auxquels on voulait rendre hommage et dont on voulait se souvenir du visage. Et elles sont faites un petit peu, elles sont réalisées à la cire selon des techniques qui rappellent les portraits funéraires du Fayoum par exemple en Égypte ou les portraits funéraires romains qu'on a pu retrouver. Et donc ces premiers chrétiens qui étaient persécutés, qui avaient du mal à s'exprimer librement, etc., traçaient dans les catacombes, dans les grottes, on en retrouve par exemple en Turquie, avaient besoin de ces images, oui, pour se souvenir. Mmh. Et puis, en se souvenant, évidemment, on dialoguait comme on a une photo de nos disparus devant laquelle souvent on s'attarde et puis on se souvient des bons moments qu'on a vécu, des paroles qui ont été échangées et parfois même on se prend à dialoguer avec eux en leur racontant ce qu'on fait etc. Donc pour eux c'était ça. Avec en plus, bien sûr, l'idée que le Christ avait une nature divine et que donc on pouvait le prier, le vénérer, se prosterner devant son image, voilà. Et c'est devenu après des objets de vénération, surtout pour des populations qui ne savaient pas lire. À l'époque, uniquement les moines et peut-être les dirigeants savaient lire, mais le peuple n'avait pas accès au texte. Et donc toutes ces images permettaient un enseignement de l'Évangile et de l'Histoire sainte, on pourrait dire en plus, hein, puisque déjà il y avait une tradition qui une ration. Et on a retrouvé ça par exemple dans les cathédrales romaines ou romane ou gothique, avec la statuaire qui est là aussi pour, et les vitraux, pour parler à ceux qui ne savent pas lire et écrire. Et aujourd'hui, notre monde est un monde d'images. On retrouve des images partout, que ce soit sur les murs, sauf à la radio, peut-être. mais autrement, nos enfants sont imbibés d'images, et souvent d'images violentes, sombres, tragiques, avec, enfin, qui reflètent la réalité du monde, du monde d'aujourd'hui. Et pour moi, proposer des images lumineuses, des images paisibles, des images qui transmettent la bonne nouvelle. C'est une façon, oui, de témoigner et d'accomplir ce travail qui est demandé à tout chrétien, c'est-à-dire de parler de Jésus et de son enseignement. Voilà, donc ça s'insère dans quelque chose d'assez moderne.
Absolument.
Ce goût des images. Je crois que les protestants, en fait, j'ai retrouvé aussi qu'il y avait beaucoup de peintres protestants, beaucoup. Rembrandt, le plus grand, le plus grand des peintres hollandais. Albrecht Dürer aussi, allemand. Voilà, Gustave Doré en France.
Tout à fait concilié.
Et on peut tout à fait concilier l'art et la transmission de l'évangile.
Absolument.
Ça n'est absolument pas incompatible. Et en même temps, pour moi, ça me donne un sentiment de joie intense et de liberté qui me nourrit. Voilà.
Merci, un grand merci, Joël-Nicolas, de nous avoir fait partager sur cette émission d'Évangile et Liberté, cette pratique, cet art de la liturgie orthodoxe. Je ne sais pas si je dois prononcer. Oui, liturgie orthodoxe. Je peux utiliser cette expression.
Oui, parce que effectivement, les icônes sont très utilisées dans la liturgie orthodoxe. Pas du tout comme je propose.
Très bien. Hein.
Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que mon chemin samaritaine m'a conduit à faire toute une série d'icônes sur les femmes qui ont rencontré Jésus, que ce soit sa mère, bien sûr, mais aussi sa nourrice, la sage-femme qui l'a accouché, et puis ensuite la samaritaine, Marie de Magdala, la femme adultère, les femmes qui vont au tombeau, les myrophores, celles qui lui donne les derniers, celles qui restent à la croix aussi, au pied de la croix. Voilà. Et avec toutes ces icônes consacrées aux femmes de l'Évangile, j'ai publié un livre qui s'appelle « Porteuse d'eau vive, contempler les icônes sur les traces des femmes de l'Évangile ». Voilà. Et c'est chez Mediaspol.
Mediaspol.
Donc, si certains sont intéressés pour les voir, je peux les mettre en relation avec l'éditeur, mais j'en ai moi-même à quelques-unes à disposition.
Et puis, nous mettrons sur le site internet de la radio. Je vais devoir vous interrompre.
Mais je voudrais quand même signaler que j'ai un autre site, là où on peut vraiment voir ce que je fais et l'atelier où je travaille maintenant, c'est joël-randegère-iconographe.fr.
Merci encore, à très bientôt. Au revoir à tous.
Au revoir.